7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde, pour commencer entre Bruxelles et Kinshasa ce soir.
Pour évoquer la mort d'Étienne Tshisekedi, Nicolas, figure historique de l'opposition au régime de Joseph Kabila, celui qui était surnommé le papa ou le fédérateur, c'était un mercredi à Bruxelles à la suite d'une embolie pulmonaire et sa disparition soulève du coup de nombreuses questions sur l'avenir politique de l'ancien Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. La popularité de Tshisekedi faisait de lui, le seul et unique opposant crédible à Kabila. Bonsoir Johanna Hochstein. Johanna Hochstein, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. En direct avec nous depuis Bruxelles, Johanna, où vous avez pu constater cette popularité. Des milliers de personnes venues de toute l'Europe lui ont rendu hommage ce week-end.
Alors la salle est pleine à craquer, l'ambiance survoltée, on chante, on danse en l'honneur de Tshishi, comme on l'appelle ici, à l'instar de Charlotte. Elle porte un t-shirt avec la photo de l'homme à la casquette.
On chante pour la gloire de Dieu, mais pour aussi M. Étienne Tshisekedi, la tristesse et la joie, c'est mélangé. On pleure, mais on manifeste aussi quelque part la joie de ce qu'il a fait.
Accroché à son téléphone portable, Pascaline ne rate pas une seconde de la cérémonie qu'elle suit sur son écran. Et elle n'est pas la seule, c'est une fenêtre pour ceux restés au pays.
Il y a des Congolais qui sont au pays, qui sont connectés. Je mets en direct sur Facebook pour que les Congolais puissent aussi en profiter en même temps que nous.
Pour saluer une dernière fois la dépouille d'Étienne Tshisekedi, il faut s'armer de patience. La file est interminable et tout le monde n'a pas pu rentrer dans le bâtiment. À l'extérieur, c'est la cohue.
Oui, on n'arrive pas. C'est déjà fermé là-bas d'ailleurs.
Non, on demande juste de faire sortir les gens qui sont déjà là-bas, comme ça on nous permet aussi de rentrer. Parce que là, on va rester jusqu'à quelle heure? À 22h, le corps part déjà.
On a besoin de prévenir le papa, donc il faut qu'il fasse vite alors.
Dans la salle, la foule entonne l'hymne du parti. Andrea et Ginette, elles, sont inquiètes pour l'avenir de leur pays.
On ne voit pas qui pourra résister comme lui.
Il était le seul à dire non, à taper sur la table. Les autres qui restent, je pense pas.
On n'a pas confiance, on n'a pas confiance. Donc maintenant, ce qui nous reste, d'implorer Dieu.
Gardons espoir, leur répond leur voisin, à nous de poursuivre son combat.
Vive émotion tout ce week-end à Bruxelles, donc merci Johanna Hochstein. Et préoccupation, donc Nicolas, de la diaspora congolaise qui s'inquiète de savoir notamment si l'accord de transition politique signé en décembre dernier sera respecté par le président Joseph Kabila. Un accord arraché de haute lutte qui prévoit la nomination d'un premier ministre de l'opposition, de nouvelles élections en cette fin d'année 2017 et l'assurance que Joseph Kabila ne se représentera pas. Mais sans lui, sans Étienne Tshisekedi, tous semble être aujourd'hui remise en question. Son absence sera difficile à combler. Nous allons tenter de comprendre pourquoi avec vous, Thierry Vicoulon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc spécialiste de la région africaine des Grands Lacs à l'Institut français des relations internationales. Quelles répercussions a eu la mort d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa notamment?
Bah, ça a créé d'abord une très très grande émotion à Kinshasa, mais aussi dans le reste du pays, puisqu'il était considéré comme l'opposant historique. Et il y avait tout un mythe autour de lui.
Vous parlez de mythe, d'où est né ce mythe d'Étienne Tshisekedi?
Bah, ce mythe est né de son face-à-face avec Mobutu, qui a dirigé le Zaïre pendant 25 ou 27 ans. Il faut savoir que Étienne Tshisekedi a d'abord été un compagnon de route du maréchal Mobutu. Il a créé avec lui le parti de Mobutu, le MPR. Et c'est à partir des années, à la fin des années 70, au début des années 80, qu'il y a une rupture avec le maréchal Mobutu. Et qu'à partir de ce moment-là, il était à ce moment-là le seul opposant au régime. Et donc pour tous les Congolais, il incarne une opposition constante qui a été déterminée, alors que la classe politique congolaise se caractérise en fait par des retournements d'alliances monnayées. Et donc pour les Congolais, il a incarné justement l'inverse, c'est-à-dire un homme qui, lui, n'a jamais retourné sa veste.
Alors on connaît la situation en République démocratique du Congo. Est-ce que le décès d'Étienne Tshisekedi remet en question l'accord de transition politique démocratique qui a été signé en fin d'année par les représentants de la majorité et de l'opposition?
En théorie, non, mais en pratique, c'est fort probable, parce que sa mort crée un vide stratégique du côté de l'opposition, et donc on s'attend un peu à une bataille des barons de l'opposition pour lui succéder. Le problème, évidemment, maintenant, c'est qu'avec la disparition d'Étienne Tshisekedi, avec qui Joseph Kabila va-t-il devoir cohabiter, ou peut-il cohabiter? Et donc, ça crée une situation qui est très favorable au président Kabila, puisque le principal opposant disparaissant, celui qui pourrait émerger après de longues négociations au sein de l'opposition, sera beaucoup plus faible. Il y a dans la population congolaise en effet une grande angoisse sur le fait qu'il n'y a maintenant plus de grands leaders de l'opposition et que le président Kabila réussisse à diviser ou à accentuer les divisions de l'opposition et que par conséquent il garde la main et que les élections qui sont prévues finalement n'aient pas lieu en décembre 2017 parce que le calendrier va prendre beaucoup de retard.
La RDC est un symbole.
La RDC est un symbole, mais comme je disais, c'est toute la région qui est confrontée à ce problème, toute la région Afrique centrale. Elle n'est pas, alors que l'Afrique de l'Ouest s'est engagée dans la démocratisation depuis maintenant deux décennies, on voit bien que les régimes d'Afrique centrale, eux, ont réussi à bloquer les velléités de démocratisation.
Si on n'arrive pas à aboutir à une transition politique, quels sont les dangers qui guettent cette région ?
La crainte, c'est évidemment toujours celle des explosions de violence populaire, parce que quand on se retrouve dans des situations politiques où l'opposition est faible ou discréditée, que les gens sont dans la misère, eh bien, ça donne lieu à une situation anomique qui peut déraper très facilement dans la violence, une violence qui ne construit rien, mais qui fait des victimes.
Et c'est d'ailleurs dans un climat tendu que le cercueil d'Étienne Tshisekedi sera transféré en fin de semaine de Bruxelles à Kinshasa. Merci à vous Thierry Vircoulon. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs à l'Institut français des relations internationales.
Et direction la Bolivie, Olivier, où était inauguré jeudi dernier le musée de la révolution démocratique et culturelle. C'est dans le village d'Orinoca, au sud de La Paz.
Musée grandiose, Nicolas, le plus grand de Bolivie, 4000 mètres carrés de surface pour mettre en valeur le processus historique et révolutionnaire de l'État plurinational de Bolivie. Ça, c'est pour la version officielle. Pour les autres, c'est un monument à la gloire du leader bolivien Evo Morales. Alice Campagnol, bonsoir.
Bonjour Olivier.
Correspondante de Radio France à La Paz, Alice, vous nous faites découvrir ce soir ce lieu qui est loin, très loin de faire l'unanimité en Bolivie.
Musique des Andes, orchestre de la région, danse traditionnelle. Alors jeudi dernier, c'était jour de fête au village d'Orinoca pour l'inauguration donc du musée, le musée de la révolution démocratique et culturelle. Il y avait plusieurs centaines de personnes pour assister à la cérémonie. Les habitants du village, évidemment, les autorités de la région, des militaires, des groupes folkloriques. Et quand Evo Morales est arrivé, il a fait l'offrande traditionnelle pour bénir le bâtiment. Il a jeté un fœtus de lama dans le feu avant de monter à la tribune.
Cette date marquera l'histoire de la Bolivie. Camarades, nous vivons des moments de joie, de fête, mais surtout une période de changement. Et nous n'y parviendrons qu'avec l'unité du peuple bolivien.
Il faut avouer, Olivier, que l'ensemble avait quelque chose d'assez surréaliste. En plein altiplano, à 3 heures de route de la ville la plus proche, on voit soudain se dresser un musée flambant neuf, ultra moderne, au milieu des maisons en terre. Et toute l'effervescence de la fête ne faisait qu'accentuer l'étrangeté de la situation.
Une fête populaire, donc, ne célébrant qu'un seul homme, Evo Morales.
Exactement, Olivier, et c'est là que ça coince. Oh. Le gouvernement avait décidé de la construction de ce musée en 2006 et le lieu ne faisait pas de doute, Orinoca, le village natal de Evo Morales. Problème, ce village est éloigné des centres d'intérêt touristique. Il est par exemple à plus de 6 heures de route de La Paz. Et ensuite, quand on entre dans le musée, s'il y a bien des explications sur la culture indigène, il y a également les premiers souliers du président, des photos de lui, une statue qui le représente et des tableaux du visage du camarade président. Alors, ce musée laisse une vague sensation de culte du chef quand on en sort, et les discours de la journée étaient à l'avenant. Écoutez la ministre de la Culture.
Pisado la tierra de Orinoca.
J'ai foulé la terre d'Orinoca et j'ai pu voir de près, marcher sur la terre qui a vu naître, la terre qui a vu grandir, celui qui est considéré aujourd'hui comme un leader mondial, le premier président indigène de Bolivie, notre camarade président Evo Morales Ayma.
Des discours qui n'ont bien sûr pas du tout, mais alors pas du tout plus à l'opposition, hein.
Évidemment non, Olivier. L'opposition a formulé plusieurs critiques. Tout d'abord, un village comme Orinoca aurait d'autres besoins qu'un musée. Toutes les maisons n'ont pas l'eau courante, par exemple, et les infrastructures du village ne permettent pas l'accueil de visiteurs. Il n'y a pas d'hôtel et un seul et minuscule bar. Ensuite, le musée serait un éléphant blanc, c'est-à-dire plus de prestige que de pertinence économique, car le point qui concentre toutes les critiques, le prix du musée, plus de 7 millions de dollars. Écoutez Jorge Quiroga, ancien président et opposant d'Evo Morales.
C'est triste de voir le gaspillage de ressources là-dedans. Et ça s'inscrit dans la ligne d'un gouvernement caractérisé par le gâchis, par la dépense, par le culte de la personnalité et la vanité exacerbée. Le gouvernement utilise toujours l'excuse pour n'importe quelle dépense, aussi dispendieuse soit-elle, de la revendication et de la fierté indigène. Mais les indigènes, les Aymaras, les Quechua, ils veulent de l'eau, ils veulent la santé, l'éducation, pas des musées dans des zones lointaines à la gloire d'une personne.
Un bâtiment hors de prix, totalement isolé, qui va bien pouvoir visiter ce musée, Alice?
L'agence de tourisme officielle a affirmé donc vouloir mettre en place un nouveau circuit touristique qui inclura donc ce musée. Car si on ne sait pas combien de touristes s'y rendront, il est certain que sans circuit organisé, le lieu reste vide tant il est éloigné de tout. Est-ce que Orinoca parviendra à attirer les visiteurs? C'est donc la question que l'on est en droit de se poser. Malgré la présence dans le même village de la maison qui a vu naître Evo Morales, maison classée monument historique.
Merci Alice Campagnol, grâce à vous on a bien ressenti la ferveur populaire autour de l'inauguration de l'imposant musée d'Evo Morales.
Olivier Poujade, merci.